Bonjour Frédéric.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, Macron l'Africain.
Oui, c'est la première tournée en Afrique du président français et le contexte est des plus délicats. En effet, pointe le Figaro, le contexte marqué par la lourde présence militaire française au Sahel, le problème des flux migratoires qui ne tarissent pas et les soucis budgétaires, ce contexte fait de ce déplacement bien plus qu'une visite de courtoisie ou qu'une simple rencontre diplomatique. À l'Élysée, on sait que les attentes sont énormes, au moment où la France voit son influence en recul et son image pas forcément très bonne. Le président français est décidé à proposer un projet au-delà de ces questions d'image, explique-t-on dans son entourage. En d'autres termes, il entend renverser la tendance. Oui, constate également Libération. Là encore, Emmanuel Macron promet le renouveau. Son discours à la jeunesse d'Afrique ce mardi matin à l'université de Ouagadougou devrait marquer, assure l'Élysée, une vraie rupture, tant sur le fond que sur la forme, avec ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs. Il est vrai qu'il est loin d'être le premier chef de l'État à inscrire un grand discours africain à son agenda. Dès juillet 2007, nous rappelle Libération, Nicolas Sarkozy était à Dakar, où sa promesse d'en finir avec la France-Afrique fut quelque peu éclipsée par ses malheureuses considérations sur l'homme africain qui ne serait pas assez entré dans l'histoire. 5 ans plus tard, c'est encore à Dakar que François Hollande tournait lui aussi la page de la France-Afrique, prétendant ouvrir celle d'un véritable partenariat.
Quoi de neuf donc, s'interroge Libération, si ce n'est qu'une autre capitale, Ouagadougou, sert de cadre à ce nouveau discours.
Le choix du Burkina est en soi un message, fait valoir l'Élysée, soulignant qu'il s'agit d'un pays dont la jeunesse, particulièrement politisée, n'a pas forcément une bonne image de la France. Devant environ 800 étudiants, le président français devrait, après son discours, se prêter à une séance de questions-réponses, sans filtre, précise son entourage, assurant qu'il n'esquivera aucune des questions gênantes. La promesse fait plutôt sourire sur place, relève le journal. En fait, l'Élysée aurait limité à 4 le nombre de questionneurs. Il pourrait, par exemple, interroger Macron sur la levée du secret défense à propos de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, ou encore, il pourrait revenir sur le concept de défi civilisationnel utilisé par Macron l'été dernier à propos de la fécondité des femmes africaines. Interrogé par Libération, Alain Antil de l'Institut français des relations internationales affirme que Macron a compris que l'image de la France était altérée. La France sait parler aux élites africaines, pas assez à la vraie population. Or, dans ces pays, la population, ce sont aux 3/4 des jeunes. Tous les présidents parlent de rupture dans leurs relations avec l'Afrique en arrivant au pouvoir, mais ils sous-estiment la force d'inertie de cette relation, estime encore Alain Antil. Sur quasiment l'intégralité des dossiers africains, Macron se place dans la continuité de son prédécesseur.
Pour ce qui est de la forme du discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Ouagadougou, cette précision apportée par le Parisien.
Oui, à l'Élysée, on a conscience que les mots du président français seront passés au crible. Alors cette fois, le discours a été préparé différemment, pointe le Parisien. Ce ne sont pas les conseillers de sa cellule diplomatique qui l'ont conçu, mais les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, instance que le chef de l'État avait créée à la fin de cet été. 11 personnalités de France et d'Afrique, la majorité sont binationaux, âgés de 30 à 55 ans, issus de la société civile, anciens sportifs, entrepreneurs, chercheuses, réalisatrices, soit des profils très éloignés des habituels réseaux de la France-Afrique. Toutes les semaines, ces derniers ont réfléchi à des propositions, évoqué les conditions d'un partenariat entre la France et le continent. Il y a 2 semaines, ils dînaient tous ensemble à l'Élysée avec le chef de l'État pour lui faire part de leurs conclusions. Tout cela a nourri la réflexion présidentielle, explique-t-on en haut lieu. On en verra donc tout à l'heure le résultat.
À la une également ce matin, en France, on aura désormais le droit à l'erreur face à l'administration.
Il y en a pour tout le monde, s'exclame le Parisien, les particuliers, mais aussi les entreprises, avec toujours la même rengaine, rabibocher les Français avec l'administration, souvent compliquée et parfois trop pointilleuse. Le texte, précise Le Monde, hétéroclite d'une 40aine d'articles, contient des mesures pour les particuliers, les entreprises et des dispositions sectorielles, agriculture, environnement, construction. Son objectif est notamment de fluidifier les relations des usagers avec l'administration. Aujourd'hui, le citoyen, le contribuable, l'association, l'entreprise doivent prouver leur bonne foi, explique le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. L'idée, c'est de faire l'inverse, poursuit-il. Le citoyen est de bonne foi et c'est l'administration qui doit prouver qu'il ne l'est pas. Le droit à l'erreur ne s'appliquera toutefois ni aux récidivistes ni aux retardataires de mauvaise foi, précise encore Le Monde. Mais le texte n'explique pas comment sera prouvée cette intention.
Enfin, le glyphosate, encore autorisé par l'Union européenne pour 5 ans.
Après Après un an et demi de tergiversation, les États membres de l'Union européenne ont donc approuvé hier à la majorité qualifiée la réautorisation de cet herbicide pour 5 ans. Ce principe actif le plus utilisé dans le monde comme herbicide, notamment dans le Roundup de Monsanto, est au cœur d'une virulente bataille politique à Bruxelles. C'est en effet, déplore Libération, le basculement de l'Allemagne, qui s'était jusqu'alors abstenue, qui a fait pencher la balance en faveur de la réautorisation au détriment de la volonté française. Alors, commentaire désabusé de la Charente libre, une fois encore, les enjeux économiques discutés dans les couloirs de Bruxelles ont pris le pas sur la demande des citoyens européens de tendre vers une agriculture plus saine. Quand Berlin explique son choix par l'obtention des restrictions sur l'usage privé et le respect de la biodiversité, l'écho du rachat de l'américain Monsanto par l'allemand Bayer étouffe toutes les tentatives de justification politique avec, au final, s'exclame le quotidien charentais, la très désagréable impression de voir l'Europe baisser la tête pour avaler sans broncher le menu préparé par le leader mondial des semences.
Revue de presse signée Frédéric Couteau à retrouver sur notre site internet rfi.fr. et sur nos comptes Facebook et Twitter. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité africaine. Bientôt 8h30 sur Radio France Internationale.